Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Bonjour, frère Philippe.
Après le travail, après cette création du monde visible et invisible, du ciel et de la terre, donc le récit de la création au début, tout au début du livre de la Genèse, donc nous montre le sabbat, la fin de l'œuvre des six jours. Et le texte sacré dit que Dieu donc conclut au septième jour l'ouvrage qu'il avait fait et qu'ainsi le ciel et la terre furent achevés. Et que Dieu au septième jour chôma, se reposa.
Se reposa, voilà, c'est une expression donc assez caractéristique qui, comme il y avait six jours, on en déduit le septième jour, qui est marqué par cette expression tout à fait étonnante de Shabbaton, qui dit que Dieu se reposa. Et c'est à partir de ce mot de repos, attribué à Dieu d'une manière métaphorique, car Dieu est en acte pur, Dieu est en acte permanent, sans relativiser ses puissances qui est de l'ordre de la toute-puissance, Dieu ne se repose pas d'une manière, je dirais, humaine. Eh bien, il achève ce qu'il a créé parce que c'est déjà très bon. Et ce mot de repos de Dieu a donné le mot sabbat, qui est le septième jour. En hébreu moderne, on dira shabbat. En vieille langue araméenne, le sabbat. Et c'est celui qui a été retraduit dans le Nouveau Testament, le sabbat du Seigneur. Et nos langues ont été très marquées par cette expression, à tel point qu'on a abandonné le mot de ce qui était davantage le jour dédié à des astres, comme dans le calendrier latin, le calendrier romain. On a adopté petit à petit ce mot de sabbat dans les différentes langues, le subota même en russe, ou le samstag en allemand, le samedi en français, qui est une abréviation de sabbaton, et qui est un mot grec, sabbaton. Et tout cela nous rappelle à chaque fois ce désir de la création d'accomplir ce qu'elle a à faire pour arriver à son lieu qui est le repos. Quand on est en acte, on a besoin de voir le terme de son acte, sa fin vers laquelle on est attiré. Puis il y a un moment où, une fois que la cible est atteinte, il y a comme un repos dans l'œuvre. Et nous le ressentons tous les uns les autres quand nous avons un grand projet à faire, que nous avons à faire, que nous le faisons. Au moment où nous, ça y est, nous sommes arrivés à terme, il y a une joie de l'accomplissement. Et c'est cela qui est proposé à l'homme, cet accomplissement de tout ce qui a été créé dans la perfection, dans la beauté, dans la grandeur que Dieu veut pour sa créature. Et le sabbat, c'est la fin de l'œuvre des six jours, mais c'est déjà aussi la préparation de ce qui va être le repos du Fils de Dieu, qui, après l'œuvre de la croix, le sixième jour, où il dit d'ailleurs sur la croix, juste avant le grand cri final, tout est achevé, c'est-à-dire tout est accompli, l'œuvre de la rédemption, l'œuvre de la recréation est achevée, et il peut se reposer, c'est le grand samedi saint qui prépare l'œuvre du premier jour de la recréation, qui est le dimanche de Pâques, qui est comme un 7 plus 1, un huitième jour dans lequel le Christ fait redémarrer toute chose dans la lumière, cette fois-ci du définitif, puisque ce ne sera plus l'ombre et les choses passagères, mais la lumière définitive du corps glorieux de la cité sainte où nous sommes tous appelés. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui n'est pas comme cet aspect cyclique que voyaient les païens où les choses repartait toujours d'une manière irréversible, dans un sens toujours le même, dans une sorte de cycle sans fin. Il y a un aboutissement. C'est ça qui est l'idée du sabbat et que nous retrouvons aussi dans la nouvelle création. Jésus achève toute chose que lui a donné son Père à faire, à réaliser, et il le fait pour tous ceux qui voudront bien le suivre dans ce royaume. Il tend la main à chacun, comme il a tendu la main à Saint-Pierre, hein, pour qu'il sorte de l'eau de la mort et revienne avec lui dans la barque de l'Église.
Si je le disais, si je le disais d'une manière très résumée et sans doute alors caricaturale, mais c'est une anthropologie qui est derrière, rien que déjà anthropologiquement, c'est de dire que l'homme est fait pour la résurrection, donc c'est déjà théologique aussi de le dire. Mais il y a, que l'on croit ou que l'on ne le croit pas, il y a l'attente, tu disais, d'un aboutissement, il y a l'attente d'un repos. Je pense à ce psaume 22, « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer ». Ce désir d'aller vers cette tranquillité, cette vie oui. D'union et de douceur avec Dieu et avec l'ensemble d'une humanité qui est recréée.
Oui, cette pacification, et le Concile Vatican II en fait un très bel écho lorsqu'il dit, lorsque nous constatons dans le fond les déséquilibres que sans cesse nous pouvons observer dans la nature ou parmi les hommes qui ne restent pas dans la droiture de la morale. En vérité, les déséquilibres qui travaillent le monde moderne sont liés à un déséquilibre plus fondamental qui prend racine dans le cœur même de l'homme. C'est en l'homme lui-même, en effet, que de nombreux éléments se combattent. D'une part, comme créature, il fait l'expérience de ses multiples limites. D'autre part, il se sent illimité dans ses désirs et appelé à une vie supérieure. Sollicité de tant de façons, il est sans cesse contraint de choisir et de renoncer. Pire, faible et pécheur, il accomplit souvent ce qu'il ne veut pas et n'accomplit point ce qu'il voudrait. L'homme est tiraillé et on comprend qu'il aspire à quelque chose de meilleur. Et la tentation, c'est la tentation scientifique, le scientisme qui essaie de tout résoudre d'une manière très pélagienne, par ses propres forces, comme si l'homme pouvait dépasser sa nature. L'homme pouvait s'achever lui-même par une sorte de transhumanisme, par quelque chose qui soit plus grand que lui et dans lequel il se fait Dieu. Un humaniste médecin disait, ça y est, on va arriver à la divinisation de l'homme par ses propres forces. L'homme se fait Dieu par ses propres forces. Et puis quelques mois après, le déluge du Covid-19 a fait certainement penser ce médecin un petit peu plus profondément sur la faillibilité de l'homme. Tout ce qui est faillible défaille quelquefois, comme disait avec sagesse saint Thomas, c'est naturel. C'est naturel que ce qui est faillible défaille quelquefois. Nous sommes dans un monde donc fini, limité, mais avec un grand espoir, une grande espérance de quelque chose qui nous dépasse, qui nous attend, qui est le ciel lui-même.
Je me disais que le sabbat, pour nous, donc le dimanche qui ouvre, c'est le temps de la création nouvelle, la résurrection, mais c'est pour nous, ici-bas, c'est déjà cette communion avec le ciel dans le culte, dans la liturgie, le dimanche. Et je me disais, peut-être un peu ingénument, liturgie, donc c'est le travail du peuple vers son Dieu, le travail d'adoration, de louange, mais c'est aussi le travail de Dieu dans son peuple. Oui. Finalement, ce n'est pas la fin du travail, alors.
Alors, oui, c'est vrai que, comme disaient les Juifs dans la Première Alliance, tout le monde est soumis au sabbat, sauf les prêtres au temple, puisqu'ils doivent continuer à faire le avoda, le travail des sacrifices. Le sacrifice ne s'arrête pas le jour du sabbat. On fait le sacrifice du matin, le sacrifice du soir, et donc il n'y a pas d'arrêt. C'est vrai que le culte est le lieu par excellence de l'agir permanent et nous rappelle que Dieu est toujours en acte, c'est-à-dire que l'expression du repos à quelque chose d'un petit peu métaphorique dans le sens de l'achèvement d'une œuvre, mais Dieu est acte sans l'ombre, nous le disions dans une émission précédente, sans l'ombre d'une une rétractation sans l'ombre de quelque chose qui serait seulement en puissance. Dieu est toujours à l'œuvre, et Jésus le dit, mon Père est à l'œuvre et moi-même je suis à l'œuvre. Et il y a quelque chose de permanent dans l'œuvre de Dieu, et le culte nous rappelle que c'est quelque chose qui est sans fin, et d'une certaine manière nous sommes projetés dans cette magnifique au-delà par la liturgie, où nous serons en acte permanent avec les anges, avec les saints, dans cette cité céleste où nous n'aurons de cesse que de louer le Seigneur jusqu'à la fin des siècles.
Nous pourrions dire de cette façon que en Dieu, le travail et le repos, finalement, sont complètement l'un dans l'autre, ne font qu'un presque. Tandis que pour l'homme doit travailler à son repos, il doit travailler à laisser réaliser en lui l'œuvre de salut que Dieu lui destine, il doit travailler à sa résurrection.
Oui, nous sommes évidemment dans le temps et nous sommes marqués par les limites corporelles et sensibles de notre être qui ne peut agir que par intermittence. Ça, c'est bien sûr notre rythme humain, le lever, le coucher, montre bien cette intermittence nécessaire, mais nous aspirons à quelque chose de plus définitif, à cette cité définitive. Et il est vrai que certains sont tellement attirés par elle que le monde n'en est pas digne. Les saints nous apparaissent comme des fusées qui traversent en avec grande rapidité le siècle dans lequel ils sont nés, et il est frappant de voir la rapidité avec laquelle une petite Thérèse de l'Enfant Jésus, par exemple, arrive au sommet de la sainteté en quelques années. Elle a saisi cette nécessité d'être toujours donnée, d'être toujours en acte, d'être toujours au cœur de l'amour. Ma vocation, dit-elle, ma mère, c'est d'être l'amour dans l'Église. C'est très beau. C'est l'amour, finalement, qui fait l'actualité plénière de chacune de nos vocations.